La mer c'est dégueulasse, les poissons dedans. Dès que le vent soufflera, je repartirai.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'Escale, le podcast du webzine sandbaver.fr. Je suis Paul Brief et je serai votre capitaine de session pour cet épisode sous le signe de la dérive. Vous l'avez lu dans le titre, nous nous attaquons au thème de la dystopie dans la musique. Si, de l'extérieur, l'Escale semble être une croisière de joyeux lurons et luronnes qui partagent en communion l'amour de la musique, main dans la main, à travail égal et dans le respect des droits humains, peut-être qu'en réalité, les membres d'équipage sont drainés, épuisés par une machine écrasante, les broyant afin de tirer de leur vie et de leur souffrance de précieux partages sur la musique jusqu'à la dernière goutte, faisant de moi, capitaine de cette croisière, un tyran dystopique machiavélique. Hashtag 1984 George Orwell, Big Brother, Matthew Bellamy, Dave Mustaine avaient raison, oh mon dieu. Heureusement, il n'en est rien, et je vais vous présenter les matelots de cet équipage qui vont vous montrer tout le plaisir qu'ils ont à être ici, et de leur plein gré bien évidemment. Les intelligences artificielles, c'est un petit peu sa dystopie à venir, c'est Dretalcore.
Bonjour, graphiste recherche travail, s'il vous plaît, même un café ça pourra me payer, s'il vous plaît, laissez-moi faire du travail au lieu que bientôt les membres d'équipage décident que les vignettes de l'Escale soient faites par mi-journée, s'il vous plaît, bonne soirée.
Non, ça ne sera jamais le cas.
On a un peu d'éthique.
Le totalitarisme est un fléau.
Mais il va falloir arrêter les vannes sur mon prénom.
Moi j'aime bien, là je l'aime bien, la valide.
J'aime bien aussi.
Non mais regardez, je me fais martyriser, écoutez. Il mais fait écouter sur Mike en boucle.
Léo martyrisé.
De ton plein gré, on a dit, de ton plein gré.
Non, mais écoutez, ça va bien malgré que je me sens martyrisé dans cette équipe.
Oh, mais non, tu es notre matelot. Tu es notre matelot. Vous l'avez entendu râler H24 sur le gouvernement à chaque début d'épisode de l'Escale, justement parce qu'il craint un futur dystopique. C'est Cédric, alias Play to Die.
Oui, bonjour à tous. Le gouvernement est nul, on le savait.
Voilà.
Ah, j'avais prévenu, hein. Mais en tout cas, je suis très heureux d'être ici avec vous.
Formidable. Et je n'avais pas de jeu de mots pour lui, donc je vous présente Corentin, alias Ekafis, qui nous fait le plaisir d'être là à nouveau dans l'Escale.
Bonjour à tous, on vit vraiment dans une fricadelle.
Hein. J'ai envie de dire, est-ce que c'est pas ça aussi la dystopie, la mort de l'humour et du jeu de mots de merde?
Ça fait réfléchir. Hashtag on peut plus faire de l'humour de merde. Hein. Mm.
Si seulement.
Ah, c'est vrai que ça en ferait des vacances à certains. Hein. En tout cas dans l'équipage.
Briseur des carrières.
Chers auditeurs, auditrices, en tout cas, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'Escale sur les plateformes habituelles, sur notre très beau site sandbaver.fr, et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux afin d'être tenu informé du travail de l'équipe. Sur ce, je me tais et je laisse la place à votre première chronique qui vous sera présentée par Cédric.
Bonjour, ici le dictionnaire de Sandbazer. On vient de me demander la définition du mot dystopie, qui est la suivante. Une dystopie est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'il soit impossible de lui échapper et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité totale et sans contrainte de séparation des pouvoirs sur des citoyens qui ne peuvent plus exercer leur libre arbitre. Alors, merci dictionnaire. Maintenant, pourquoi vais-je donc parler de Kyoseidi de Sepultura? Sorti en 93, l'album évoquant principalement la situation du Brésil entre les années 80 et 90. Premièrement, parce que pour celles et ceux ne connaissant pas par cœur l'histoire du Brésil, d'où est originaire le groupe, à la sortie du disque, le pays sortait depuis quelques années de 20 ans de dictature. Donc une situation propre à la dystopie, sauf que ce n'était pas un récit, mais la réalité. Pour le deuxièmement, je vais vous demander d'attendre la fin de cette chronique. Après cette introduction, de quoi parle Kyoseidi? Eh bien, de brutalité policière, carcérale, de propagande, du concept d'ennemi intérieur, de discrimination, de colonialisme et d'autres joyeusetés suivant généralement l'instauration de l'extrême droite au pouvoir. Même si bon, hein, des fois on n'attend pas ça pour le faire, sans aucun rapport, big up à l'ancien de l'Action française Darmanin. En tout cas, Sepultura, dont les membres ont vécu enfants sous la dictature brésilienne, en parle avec brio. Surtout, le groupe exprime via les compos et riffs le sentiment de révolte face à ces exactions criminelles. La formation, après plusieurs albums trash, s'est orientée vers un style plus lourd et groovy, sans perdre la rage et la colère, on a fait une escale là-dessus, de ses origines. Il n'y a qu'à écouter Max Cavalera crier son opposition à ce qu'il a vécu pour comprendre son abhorration de cette politique. Le frontman n'a pas cherché la qualité, mais a plutôt été trouvé l'émotion, la rage installée chez l'auditeur. Et il faut bien le dire, les riffs du disque sont excellents. La plupart des titres sont des odes au cassage de nuque, ce qui, additionné aux paroles dont je vais parler d'ici peu, devient de fait de magnifiques propositions de destruction de mobilier urbain. Je pense notamment à l'intro de Territory, celle de Propaganda ou Biotech is Godzilla, véritable appel au Circle Pit Velos. L'appel à la bagarre se fait de plusieurs manières, soit très vite sur Biotech justement, ou de manière plus lourde, par exemple sur Nomad ou Territory. Toujours est-il qu'à la fin, votre environnement proche aura subi des dégradations. Je n'ai pas vraiment le temps de développer, mais si vous ne connaissez pas encore, sachez que Chaos ID est musicalement incroyable. Que ce soit les riffs, la batterie, les paroles ou les compositions, le disque eut une influence et un héritage indéniable sur la scène métal. Il a notamment inspiré un quatuor hollandais très cher à mon cœur. J'en profite également pour adresser un big up au super mixage et production pour lesquels on doit remercier le légendaire Andy Wallace. Pour revenir au propos du disque, c'est en réalité très simple. Chaos ID transpire la révolte à chaque seconde, à chaque riff, à chaque note jouée. Le titre d'ouverture suffirait presque, Refuse Resist étant plus qu'explicite dans ses intentions. Sepultura n'est sûrement pas subtil dans ses titres avec Propaganda, Biotech is Godzilla ou encore Slave New World, référence à peine cachée au roman dystopique Brave New World. Mais pourquoi l'être quand on produit un album aussi résistant dans l'âme, le métal rageur du groupe étant la forme parfaite pour en servir le fond? On entend à travers le disque un discours pro-population indigène, sincère, qu'a toujours poussé le groupe, notamment sur Roots 2 ans après Chaos ID. À travers les lignes de Kiowas, Nomad ou We Who Are Not As Others, on peut avoir une lecture de thèmes antiracistes, ces populations subissant encore les affres de suprémacistes ethniques. Il y a également d'autres thèmes présents, comme l'expérimentation scientifique gérée par des corporations se souciant seulement de leurs profits ou la répression policière. Je vous renvoie ici aux paroles de l'ouverture de l'album. La dimension politique de Chaos ID est indéniable, et il sortira une année avant un autre brûlot tout aussi orienté politiquement à la portée encore plus grande, j'ai nommé l'album éponyme de Rage Against the Machine. Si Chaos ID peut évoquer une dystopie, il dit aussi comment se positionner face à elle. Résister, encore et toujours, et ne rien laisser passer. Et on arrive à la seconde raison pour laquelle j'ai décidé de parler de cet album aujourd'hui. Pour le contexte, si vous ne l'avez pas encore deviné, sachez que je me place plutôt à gauche de l'échiquier politique et me revendique antifasciste. Avec ceci, sachez que, selon moi, en France, nous avons désormais un bon nombre d'éléments inscrits dans la loi qui favorisent la mise en place d'un état fasciste et xénophobe et aideraient beaucoup trop bien à le maintenir en place. En quelques exemples, nous avons déjà un beau projet de loi autorisant la reconnaissance faciale, notamment par des algorithmes, un autre pour activer au KLM les micros et caméras de téléphone portable, le moyen pour le gouvernement en place de promulguer sans vote la loi qu'il souhaite, des policiers qui obtiennent ce qu'ils veulent en moins de 24 heures pouvant réprimer sans presque aucune répercussion, une impunité politique et policière, des attaques incessantes sur les garants et observateurs des droits de l'homme, parfois même de la part de l'État, et pour finir, un système exploitant les classes en bas de l'échelle sociale, en particulier les personnes racisées via un racisme systémique. Si vous avez suivi, on retrouve quelques-uns de ces thèmes dans Chaos ID, en particulier les violences policières. Si la nôtre est sans commune mesure avec celle du Brésil des années 80, il faut être aveugle pour ne pas voir les dérives très inquiétantes récemment, notamment depuis les années Valls. Plus généralement, voir l'emballement de la glissade de notre politique vers celle des adeptes du lever de bras 45 degrés m'inquiète, et j'ai de plus en plus de mal à voir sa fin. Et finir par avoir ce genre d'état, chez moi, c'est une dystopie. Cela inspire en moi une frustration mais surtout une révolte que je retrouve sans problème chez Sepultura, en particulier sur cet album. Honnêtement, il aurait très bien pu se retrouver sur l'escale sur la rage et la colère, mais son propos fait qu'il devait être présent sur celle-ci. En guise de conclusion, je ne dirai qu'une chose, face aux dérives totalitaires, refuser, résister.
Morceau d'introduction de l'album qui lance le ton très directement avec toute son énergie, toute sa rage, tous ces éléments un petit peu tribal avec les percussions qui effectivement m'ont beaucoup fait penser à Gojira, en tout cas Gojira récent, vu que tu les as cités, nos amis landais. Et bien évidemment, un propos politique, bon, ok, on se rattache tous hein, dans la rédaction de Soundbather, mais je pense que c'est pas une surprise pour celles et ceux qui nous suivent depuis longtemps. Un discours ô combien important et sur lequel on doit tous rester bien vigilants et être mobilisés. Parce que la dystopie, effectivement, c'est également ça. Elle a toujours cette dualité dans les œuvres, notamment de science-fiction dystopique, d'être en fait un reflet sur notre... des réflexions en fait à se servir sur notre présent et à mettre en perspective avec l'utopie. Beaucoup d'œuvres d'ailleurs parfois mélangent des éléments utopiques et dystopiques, en tout cas pour donner des éléments de questionnement et de réponse. Et effectivement, il n'est pas au-delà du fait de oui, nous vivons dans un renfort société, il y a effectivement des choses à en tirer et des choses notamment sur lesquelles il faut se mobiliser. Donc merci pour cette belle chronique, Cédric. Léo, ton rapport à cet album, est-ce que tu avais fait des recherches par rapport au choix sur la dystopie, ou est-ce que tu t'es fait convaincre par la chronique de Cédric? Je te donne le micro.
Eh bien, un peu tout, mon cher Paul. Non, en fait, c'est plus tu auras, comment dire. J'ai commencé à en écouter il y a 5 ans, quand je me mettais au métal, et surtout resté sur Roots, en fait. À l'époque, je me rappelle, j'ai commencé par Arise, qui est très trash, très, très raw. Mais non, je suis surtout resté beaucoup sur Roots et j'ai mis de côté complètement Chaos AD avant aujourd'hui, avant l'enregistrement, où du coup j'ai dû l'écouter pour, et je suis content parce que c'est quand même un album que je trouve vraiment excellent, que comme disait Cédric, les riffs sont assez fous, le chant rageur un peu à la Roots qui moi me plaît beaucoup chez eux, et vraiment moi ce qui m'a vraiment frappé à l'écoute encore une fois chez eux, c'est la batterie. Igor Cavalera à la batterie, c'est un putain de monstre. Genre, Cédric en parlait dans sa chronique, l'intro de Territory, c'est ta tête le mur, hein. C'est quand même quelque chose. Mais c'est pas juste un album qui est groovy, comme dirait une certaine personne. C'est surtout un disque qui est renfermé de plein de subtilités, qui travaille son ambiance et ce côté tribal, du coup, qui est très... que je rapproche de tout en Sepultura, justement. Mais je trouve que ça marche d'enfer, et c'est vraiment un disque que je comprends du coup l'influence que ça a pu avoir sur justement Gojira, même sur la scène en général, parce que c'est quand même un disque qui maîtrise son sujet de bout en bout. J'ai juste pas creusé les textes encore parce que c'est trop frais dans mon esprit, mais je pense que c'est un disque que je vais écouter beaucoup ces prochains jours, parce qu'il y a quelque chose qui me pousse à y revenir à chaque fois, et je trouve ça très fort.
Merci Léo. Corentin, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce disque? Est-ce que tu le connaissais déjà d'avant?
Alors, je connaissais un peu Sepultura de réputation, et j'avais déjà vu plusieurs fois la pochette de Chaos AD. Par contre, je dois avouer que c'est l'album qui m'a un peu laissé sur le carreau de toute la sélection de ce soir. Désolé Cédric.
Oh, le censeur émotionnel.
Oh, t'inquiète pas, il y aura du bon retour de bâton.
Un chaud courant, t'inquiète.
Non, mais je suis pas très friand de trash. Et du coup, j'espérais retrouver dans cet album un peu des... qui me provoque des images, qui me rappellent la dystopie, tout ça. Et là où ça va être... ça a été beaucoup plus parlant sur les albums qui vont suivre, les chroniques de mes autres collègues. Chaos AD m'a vraiment laissé un peu de marbre de ce point de vue-là. Je suis pas capable de parler de la qualité de l'album, vu que je suis pas spécialement client, mais en tout cas, je suis content d'avoir pu... profiter de la chronique de Cédric pour découvrir un peu tout le contexte qui se cachait derrière, et du coup de découvrir que c'est un album qui est vachement riche dans son texte et son propos, malgré une apparence qui m'a laissé complètement en surface et que j'ai pas du tout réussi à pénétrer à l'intérieur.
Et bah super, ça sert aussi à ça les chroniques de l'Escale. C'est un échange au-delà de juste l'appréciation première de la musique pour approfondir un petit peu, donc c'est très cool. Merci beaucoup à toi. Et toi, Guillaume, pour terminer ce tour de table.
Chaos AD, les tanks sont dans la rue, la police fait saigner le peuple, la foule enragée brûle les cars. les cars, les voitures plutôt. Le bain de sang commence, qui sera en vie, pour résumer, tout cramé. Voilà, c'est ce que je retiens de cet album et c'est un mood que je partage volontiers avec celui de Cédric et les musiciens de Sepultura à cette période. C'est vrai que Sepultura, dans ces années-là, c'était quand même un groupe plus qu'important et qui a quand même posé, avec le recul, une pierre fondatrice au métal moderne aujourd'hui. Et c'est un peu pour moi qui ai aussi dit le magnum opus de Sepultura avec justement Roots 2 ans plus tard. Ce sont deux albums d'une même pièce, deux faces d'une même pièce que je ne peux pas séparer. Sur la revendication de l'ethnie, les thèmes exploités, puis surtout ce groove, c'était quelque chose d'aussi impressionnant. Rappelons qu'à l'époque, au Brésil, c'était vraiment, je crois, le premier groupe qui vraiment explosait en dehors de son pays. Et comme nous, par exemple, on a Gojira avec aujourd'hui, expliquant aussi un peu la similarité entre les deux groupes, qui est pas pour me déplaire. Donc oui, hein, qui aussi dit, c'est j'espère que pour beaucoup, c'était un groupe que, comme vous le savez, dans la rédaction Soundbather, on est plutôt branché métal, même si on se dit un peu éclectique, que vous connaissiez déjà. Sinon, j'espère que vous ferez de superbes découvertes et que, même si c'est comme dans les mêmes opinions de Coco, qu'au moins vous vous rendez compte que c'est un album plus qu'essentiel pour ce thème d'aujourd'hui. Parce que oui, hein, et je terminerai là-dessus, tout cramé.
Oui.
Tout cramé, effectivement. Alors, branché métal ? Eh bien écoute, Guillaume, tu viens de me faire une rampe de lancement parfaite pour la transition avec la prochaine chronique qui sera la tienne. Je te propose justement de montrer toute la nuance qui est la nôtre avec ton choix pour cette escale sur la dystopie.
Ah mais tu savais pas, j'ai changé d'album, hein. Je vais pas parler de
celui-là.
J'ai décidé de vous parler de Raining Blood de Slayer, tu vois, pour essayer de la continuité.
Oh non. Allez, moi, on m'a dit qu'on parlait musique, merde.
Et c'est parti, le tac sur Kerry King est parti.
Ça dérape.
Non, j'ai rien contre.
Je vous aime, les gars.
J'ai rien contre Slayer, mais fallait que je fasse une petite vanne d'introduction. Alors, avant de commencer, je tiens à préciser que je vais parler ici d'un de mes albums de ma vie. Un disque qui m'a souvent accompagné au travers du brouillard et des ténèbres. Donc ne vous étonnez pas trop si vous trouvez ma chronique un chouïa dithyrambique, car je n'ai pas réussi à apporter une approche objective à celle-ci. Et en parlant d'accroche, évoquons tout de suite l'éléphant dans le magasin de porcelaine, le pourquoi je vous parle de Controlling Crowds d'Archive dans cet épisode de l'Escale. J'ai choisi cet album car sur celui-ci se trouve la piste Bullets, sans doute l'une des plus connues des londoniens, si ce n'est celle qui vient en tête à chaque personne dont on évoque le nom Archive, car propulsée par le trailer d'annonce du jeu Cyberpunk 2077 en 2012. C'est assez marrant de voir comment les genres de science-fiction dystopique entretiennent une romance assez profonde avec le genre de la trip-hop. Je me souviens clairement d'un trailer promouvant le jeu Metro Exodus se déroulant dans une Russie ravagée par une guerre nucléaire, qui démontrait ses paysages et son gameplay au rythme du mythique Angel de Massive Attack. Pour en revenir au cyberpunk, c'était un choix plus que judicieux d'utiliser la seconde piste de ce dense album. Rappelons qu'à la sortie de ce trailer, il y a maintenant plus d'une décennie, Controlling Crowds était la sortie la plus récente d'Archive, acclamée par la critique comme un retour aux sources à leurs ambiances d'origine, ambiance mettant à l'appui des couches sonores hypnotisantes et des pulsations vocales et instrumentales d'un calme presque impassible, mais toutefois d'un réconfort un peu inquiétant. Quoi de mieux que ce genre d'ambiance pour coller à cette branche de la science-fiction qui semble à la fois la plus réconfortante, où beaucoup d'œuvres se déroulent dans un futur proche à la limite du palpable, nous donnant presque envie de se balader dans leur mégalopole au néo-coloré, mais à la fois d'une grave inquiétude car traitant de sujets comme la déshumanisation du corps humain et surtout de la société, ainsi que du contrôle de celle-ci par de grandes entreprises totalitaires, des sujets qui, à notre aube du XXIe siècle, sont des sujets plus que d'actualité. Sur ce point, je laisserai le plaisir aux futurs archéologues d'Internet, si un jour ils tomberont sur ce bout de discussion, de me donner raison ou non sur ces actualités. Nous voguons tous et toutes sur un chemin assez tumultueux, où quand tout semble bien aller pour notre personne, nous sommes frappés par la réalité de nouvelles toujours plus déprimantes chaque jour, chaque semaine et chaque année qui passe. Comment ne pas vouloir tout débrancher, se mettre des œillères et juste espérer vivre sa vie sans devoir avoir le poids de la société sur les épaules ? Et c'est souvent dans cet état d'esprit que je me retrouve dans cet album d'Archive, qui, personnellement, fait ma porte d'entrée vers le groupe et le mouvement trip-hop en général, la faute donc à ce fameux trailer de Cyberpunk. Et quelle porte d'entrée me direz-vous ? Cette introduction d'une dizaine de minutes avec le titre éponyme aux boucles froides et hypnotisantes, Danger Visit et son texte à la limite du rap murmuré, l'incroyable Quiet Time, signant le retour au chant du rappeur Roscoe John, présent sur les albums Londinium et Take My Head, et qui nous gratifie de couplets en parfaite harmonie avec cette ambiance nocturne dépeinte par l'album. Comment aussi ne pas vous parler de la piste à la limite du glitch King of Speed, ou encore cette plongée dans la pénombre avec Bastardize Inc. Cet album est surtout pour beaucoup un disque plus que dense, dépassant largement l'heure d'écoute et même ajouté d'une trentaine de minutes supplémentaires dans sa version de luxe, servant d'épilogue comme quatrième partie à son histoire dépeinte, s'alignant au final plus que parfaitement avec le genre de cyberpunk. Mais dont aujourd'hui on ne parlera pas, car je préfère vous garder la surprise et vous donner l'envie de l'écouter si les pistes qui passent en fond sonore de ma chronique vous donnent envie de vous lancer dans cette aventure. Feel, trust, obey, ce sont trois mots que peuvent bien décrire le totalitarisme que dépeint ce genre de la science-fiction qui semble plus qu'effrayant, et qui semble, comme je le disais en ouverture, un scénario plus que possible dans un futur proche. Étant d'une nature plutôt pessimiste, vous devez sans doute vous dire que se morfondre dans une telle humeur, ça ne doit pas vraiment m'aider. Mais là, le point positif, c'est que la musique d'Archive est d'un sublime fatal, et c'est ce que j'aime dans ce Controlling Crowds. Même si souvent on cite comme pilier du trip-hop les mezzanines de Massive Attack, les demi de Portishead, ou bien un certain album de Gorillaz que je ne citerai pas ici pour des raisons de spoil, je pense sincèrement que ce 7ème album d'Archive mérite amplement sa place sur le panthéon de trip-hop, tant ses thèmes et sa musique résonnent en moi d'une singularité forte. Alors si vous aussi, tout ce que vous connaissez d'Archive, c'est Bullets, grâce à Cyberpunk, j'espère que le voyage proposé dans une part plus sombre et enivrante de la musique vous plaira tout autant qu'elle me berce lors de mes nuits solitaires seulement rythmées par les lumières des lampadaires.
Merci beaucoup Guillaume pour cette chronique et pour ce choix, parce que je crois pas en avoir encore parlé sur Soundbather, mais Archive c'est un groupe de cœur, moi aussi, un groupe qu'on partage tous les deux. On vibre d'ailleurs très souvent quand on se voit IRL sur leur musique, que j'avais découvert moi par leur penchant un petit peu plus influencé rock progressif, notamment avec le You All Look The Same To Me.
Et le Lights aussi, ouais.
Et Nights, effectivement. Et que j'ai beaucoup poncé leur discographie, c'était d'ailleurs dans mes tout débuts de ma passion musicale. Et que Controlling Crowds avait fait l'objet d'un album de très qualitatif, mais que j'ai redécouvert des années plus tard, pour en saisir vraiment toute la force, très enrichie par tout ce qui s'est fait dans des genres plus en plus dans l'électronique que juste le rock ou le metal progressif. Et ce retour à cet album avait fait un effet de claque doublé en fait par rapport à ce que j'avais pris à l'époque avec tous les titres que tu as cités, ces ambiances enivrantes et un titre que tu n'as pas évoqué mais qui moi à chaque fois me transporte mais dans des images, dans des émotions, c'est le Collapse Collide. Celui juste après Quiet Time qui est juste enivrant et à en pleurer de beauté à son climax, mais toujours d'une froideur très latente. De toute façon, tout le disque est un sacré voyage avec beaucoup d'ambiance. Il y a toujours cette formule d'Archive en fait, de faire tourner en boucle des mélodies et ajouter des petites variations de texture ou de rajouter en fait une couche pour faire continuer de faire monter la sauce. Mais c'est vraiment un album dans leur discographie qui, au final, en gardant une couleur assez homogène sur tout le long de la tracklist, mais plein d'éléments très différents, quelques guitares acoustiques sur Controlling Crowds, le rap justement sur Bastards Corporation, avec justement des samples de voix servis comme synthé très pulsé. Enfin, c'est très très riche, et puis donc c'est un album en plus qui parle en fait de violence policière, qui parle de société qui se refroidit, qui devient de plus en plus dystopique justement. Les Archives qui sont très habitués à ça, ils traitent beaucoup de la solitude, de la santé mentale, de révolte politique aussi. Hein, leur morceau Fuck You avait été inspiré par l'un des leaders, par George Bush, il me semble. Mmh. Et vous lirez les paroles, on est très clairement sur un beau doigt levé intégral à une personne politique. Voilà, en l'occurrence. Mais voilà, donc encore merci pour moi. Tu m'avais conquis avant même ta chronique, donc c'était très facile. Mais du coup, je voudrais l'avis de personne qui apparemment, a évoqué tout à l'heure que c'était un peu plus compliqué pour lui, à savoir Cédric. Et lui, range ton flingue. Nous sommes sur un podcast démocratique et dans l'acceptation de l'avis de chacun, du moment qu'il est respectueux. Je t'en prie, Cédric.
Alors, en vrai, comme Coco tout à l'heure, je ne suis pas le public, malheureusement. c'est des choses qui arrivent, hein, je peux pas tout aimer. Parce que déjà, alors du coup, Archive, j'en avais entendu parler de loin, mais j'avais jamais écouté, hein, qu'on soit bien clair. On a annoncé l'album, j'ai vu la longueur de l'album, j'ai vu le genre de l'album. Bon, ça... Mais bon, au final... Du coup, le rapport à la dystopie, il est évident. Hein. Controlling Crowds, rien que dans le nom, c'est évident. Clones, Bastardized Inc, pareil. Après, moi, c'est vraiment plus le genre du trip-hop avec lequel j'ai beaucoup de mal, même si dedans, là, par exemple, Quiet Time, j'aime bien. parce que c'est assez hypnotique, c'est un truc que ça m'a assez bien pris.
Gros banger Cover Time, c'est vraiment préféré de l'album.
Voilà. Et après, le truc, je pense qu'un des morceaux exemples qui explique un peu ce que je dérange, c'est, enfin, ce qui me dérange, c'est Clones. C'est-à-dire que t'as une bonne mélodie de base, elle est très belle. Puis en fait, quand t'as la batterie qui est trip-hop qui vient par-dessus et la basse, ça me sort du truc en fait. Parce que tu vois, t'avais posé une ambiance et en fait, ça pour moi, ça casse l'ambiance. Mais bon. Après, comme j'ai dit, je suis pas le public, je comprends très bien que d'autres apprécient totalement. Et par contre, un truc qui m'a surpris, c'est que je me suis retrouvé des moments à me dire ah ouais, mais en fait, c'est des ambiances qui font très Porcupine Tree, mais avec des instrus trip-hop du coup. Et donc, du coup, bah, forcément, connaissant l'amour que certains portent à ce groupe, je vois pourquoi vous aimez cet album.
Et encore, toi en plus qui es très fan du Pink Floyd The Waters, tu devrais foncer sur All Look The Same To Me, parce que c'est vraiment la formule trip-hop mais mixée à Animals. Et effectivement, bah, quand je parlais de ma découverte de Archive, c'était conjointement Porcupine Tree et je me tabassais aux deux groupes très régulièrement, donc très bien, très bien noté de ta part, effectivement.
Et en vrai, du coup aussi, alors malheureusement le chanteur, j'aime pas sa voix, donc forcément c'est compliqué.
Mais ils sont plusieurs dans le groupe à chanter, donc si jamais t'as une voix que t'aimes ça peut varier.
Voilà. Et après un truc que je me suis dit aussi, c'est qu'en vrai, tu foutrais ces morceaux dans des séries, genre du milieu des années 2000, par exemple, ça fonctionnerait super bien.
Ah bah à ton avis, pourquoi Dr House ils utilisent Teardrop, à ton avis?
Bah justement, le lien était évident.
Évidemment.
Mais justement, je trouve que ça marche très bien. Je sais pas si ça a été fait, des morceaux d'archive ont déjà été utilisés dans des séries.
Alors, ils utilisent pas Teardrop, ils utilisent une chanson qui ressemble beaucoup, mais c'est pas explicitement Teardrop.
Merci professeur, c'est des trucs. Merci pour ton intervention.
Enfin voilà, donc pour conclure, je comprends pourquoi vous aimez cet album, mais c'est pas ma cam, c'est dommage, mais voilà.
Ça marche. Et oui, je serais tellement pas surpris que Archive doit se trouver dans des séries ou des films, à mon avis ça a déjà été fait, assurément. Bon, bah du coup on va partir sur une fanzouze du groupe. Léo, je te laisse donner ton avis sur la chronique et l'album.
Alors de suite, fanzouze, non, je suis pas le plus grand fan du groupe, hein. Moi durant longtemps j'écoutais que Lights, hein, et ça a peut-être duré 3-4 ans comme ça. Hein.
C'est un morceau qui suffit en lui-même, je trouve. C'est...
Ah non, mais ouais, l'album, hein, mais...
Ah, ok, ouais.
Mais après, non, mais Lights, c'est un album que j'adore. Et puis en vrai, Controlling Crowds, c'est un album que j'ai découvert récemment. Je me suis dit, tiens, faut quand même que je l'écoute avec Londinium et tout. Et je me rappelle, du coup, j'ai lancé Controlling Crowds. Les premières intros du morceau éponyme avec lequel l'aviez, j'ai fait « Ok, c'est bon, tu m'as, je bouge plus. » Et je me suis fait aspirer dans un trou. Genre, j'ai pas vu l'heure 20 passer. Je me suis dit, pour moi, cet album, ça va être très dithyrambique pour moi, je préviens aujourd'hui, mais j'ai beaucoup de mal à lui trouver des défauts à cet album. Sans déconner, parce qu'il y a une ambiance qui est... Ouais, je vois pas... Moi, perso, je sais pas, il y a un mood dans ce disque que j'aime énormément. Il serait que quand je l'ai vu sur l'épisode, j'étais pas trop étonné, connaissant un peu les thématiques, rien que le nom de l'album, tout ça, mais voilà, et dedans il y a des titres fous, je vous en avais parlé, mais Bullets, moi ce titre il me rend fou, je l'ai réécouté tout à l'heure en bagnole, j'étais en mode personne, voilà, non mais c'est...
Anyone. Mais je suis assez content que tu accroches à cet album d'Archive comme j'ai accroché, parce que ma chronique était plus justement sur, comme vous l'avez entendu, c'était pas forcément pour décrire chanson par chanson, point par point, le déroulé de l'album, mais plus expliquer que moi il m'a pas mal transporté dans des moods qui, même si c'est des moods qui sont quand même plutôt négatifs dans l'ensemble, me rassurent quand même un peu, m'enivrent et m'emmènent dans des ambiances que j'apprécie énormément. Et même si c'est des ambiances qui sont quand même plutôt sombres, me font quand même beaucoup de bien. Et c'est vrai qu'il y a vraiment que sur cet album d'Archive, je trouve, peut-être plus par les thèmes plus dystopiques, que je trouve que cette ambiance qui est vraiment unique à Archive. Les autres, même les albums les plus anciens qui sont plus réputés, comme Londinium ou You All Look The Same To Me, ont moins cette ambiance froide mais réconfortante qu'Archive, je trouve.
Bien. Après, ouais. Peut-être que ça te fait du bien, justement, parce que ça peint quelque chose d'effrayant, mais d'une façon, justement, qui est présentée comme négative, qui est à combattre, et que ça te met du baume au cœur d'avoir ce côté de pas laisser aller à ce genre de choses qui sont un problème, quoi, aussi.
Tout à fait.
C'est combattre le feu par le feu, au final.
Et, ouais, et comme disait Paul, Collapse Collide, mais quel bijou, quel bijou, et Non, il y a quelque chose vraiment de réconfortant dans la mélancolie dans cet album, et c'est quelque chose à laquelle je suis très sensible en musique, donc c'est un peu du cheat code. Et sur certains aspects, ça me fait penser à du Radiohead, et étant un giga fan de Radiohead, voilà. Mais non, et puis même Danger Visit, qui est un morceau que je trouve qu'on parle pas beaucoup, alors que pourtant son explosion finale, pour moi, c'est un des meilleurs moments de l'album.
Oh, si, Danger Visit est quand même beaucoup cité, mais oui, enfin...
Moi, je m'en rends pas compte, tu vois, je sais pas, j'ai l'impression qu'on parle plus des autres morceaux. Et dernière chose que j'ai envie de noter, c'est le retour du rappeur qui est sur Landinium, qui est sur deux titres, et que
oui,
je trouve que ça amène quelque chose d'assez fort dans ce disque. Je trouve que ça lui colle plutôt bien.
C'est lui justement qui chante sur Quiet Time, et c'est justement son retour qui me fait vraiment du baume au cœur. Sachant que vraiment les deux albums que j'adore d'Archive, c'est justement Londinium et Controlling Crowds. Donc peut-être justement par la présence de John Roscoe, mais Roscoe John plutôt, c'est l'inverse. Il apporte quelque chose aux compositions d'Archive qui donne vraiment une texture en plus à la musique que j'apprécie énormément.
Et pour moi dire ce qu'a dit Léo, moi j'ai toujours trouvé qu'Archive c'était un groupe qui avait ce côté froid, lent et mélancolique, mais qui en dégageait une énorme puissance, une énorme énergie à chaque fois. Paradoxalement, il y a dans leur build-up, il y a toujours un truc qui a l'air d'être ultra à fleur de peau, et je trouve qu'il y a une énergie en fait qui est au-delà de juste la rythmique qui peut sembler justement être plus fait pour chiller quoi. Mon très cher Corentin et Kafis, est-ce que tu as envie d'ajouter des choses sur cet album, cette chronique ?
Oui, bah, même si vous en avez déjà bien parlé, j'ai envie d'ajouter mon petit grain de sel parce que c'était une découverte complète pour moi, Archive, cet épisode. Et du coup, bah, quand je l'ai écouté, j'ai compris dès les 30 premières secondes parce que l'endroit où m'a téléporté cet album avec son univers, je me suis tout de suite imaginé une ville type Berlin quand elle était séparée durant la guerre froide, mais mis à la place des personnes qui vivaient à l'intérieur, donc ambiance morne, population opprimée par le pouvoir en place. Et ça me fait penser un peu à ce qu'on s'imagine en fait d'une dystopie un peu orwellienne, avec un univers résigné et fortement mélancolique. Et j'ai trouvé que quasiment dans toutes les pistes, il y a toujours un sentiment d'urgence qui se place malgré le côté assez calme quand même de la musique en général. Et c'est un album que j'ai découvert du coup il y a quelques mois maintenant, vu qu'on avait reporté l'enregistrement, à un moment où je courais très régulièrement et où j'avais besoin d'albums assez longs pour faire mes sorties. Et le fait que l'album soit très constant dans l'énergie qu'il distille, c'est un très bon choix pour ce genre d'écoute. Donc je vous encourage à écouter Controlling Crowds et sa suite en allant courir ou en allant vous promener, surtout pendant les saisons froides. Après coup, ça m'a fait penser à un groupe que j'ai découvert après Archive qui s'appelle les Big Bird, et j'ai trouvé qu'il y avait un peu cette énergie-là, donc je vous invite aussi à découvrir les Big Bird si jamais Archive vous a plu, et cet album en particulier.
Oui, je vous invite à écouter le podcast La Scène. On ne forcera jamais avec dessus.
Le podcast ami, bien entendu. Mais oui, Léo, tu as envie de rajouter quelque chose ?
Juste, j'ai envie de raconter un truc qui me... Genre, la pochette, ça représente quoi, SVP ? J'ai jamais compris ce que c'était.
Mais moi non plus, j'ai jamais trop su ce que c'était. Moi, tout ce que je vois dedans, c'est une espèce d'amalgame de squelette un peu cybernétique.
Ouais, un côté un peu machine organique.
Ouais, voilà.
C'est une image générée par une IA avant l'heure.
Oh putain.
Non. Ouais, mais fait par un vrai artiste du coup.
Oui, voilà.
Mais, j'ai beaucoup aimé le fait que tu aies souligné ce sentiment d'urgence sur le disque, Corentin, parce que c'est un peu ce que je rejoignais avec la puissance que je trouve que m'évoque la musique d'Archive, malgré le côté un peu lent. C'est, moi je dirais même qu'il y a un côté un peu fatal, il y a un côté un peu fataliste et urgent fataliste en fait, à devoir réagir ou à justement l'émotion en fait qui est un peu sous la peau de la personne ou de le tableau que construit le groupe. Donc effectivement, c'est un point que tu as mis le doigt dessus, je trouve très très pertinent. Merci beaucoup pour tous ces échanges sur ce très bel album. Donc, vous avez compris, à exception de Cédric, nous a tous beaucoup conquis, bon, à différents moments en tout cas de nos vies, que ce soit ceux qui connaissaient d'avant ou à la découverte. C'est très très chouette. Et je vous propose qu'on aille sur déjà la troisième chronique de l'épisode avec celle de Léo. Donc je t'en prie, mon cher Léo.
Pour commencer cette chronique, j'ai bien envie de vous poser une question. Qu'est-ce que c'est réellement pour vous la dystopie ? Bon, j'en vois déjà certains arriver et me dire que notre monde actuel en est un. Certains veulent nous faire travailler jusqu'à pas d'âge. D'autres se disent que balancer des missiles dans l'océan, histoire de bien faire peur à tout le monde, serait une bonne idée. Mais bien pire, certains autres dirigeants se mettent à attaquer des pays voisins par pur ego. Mais malgré tout cela, personnellement, quand on me parle de dystopie, je pense immédiatement aux œuvres cinématographiques de SF, de science-fiction. Elles peuvent prendre diverses formes, que ça soit le monde cyberpunk, futuriste et sombre de Blade Runner par exemple, de Ridley Scott, ou bien le lumineux Her de Spike Jonze, qui derrière sa beauté apparente nous parle d'une profonde solitude au sein d'une société où plus personne ne se parle, ou encore le classique et glauquissime, mais non moins facilement Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Nous plongeons dans un univers complètement déchiré par l'ultra-violence et la noirceur de l'être humain. Mais avec toutes ces références cinéphiles, que je pourrais vous citer, il y en a une qui a marqué l'histoire au fer rouge et qui sera au centre de ma chronique d'aujourd'hui, Metropolis de Fritz Lang. Alors, malgré mon amour pour la dystopie et la SF au cinéma, j'ai pas encore eu l'occasion de voir cette œuvre, considérée comme l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Il est d'une durée de 2h33, et il est sorti en 1927, et les images que j'ai pu voir passer peuvent impressionner tout de même pour l'époque. C'est une sorte de critique sur la lutte des classes qui dépeint un 21e siècle à venir sous toute sa noirceur et sa froideur. Je crois qu'on est bien dans le thème là. Bon, vous allez me dire, mais Léo, pourquoi est-ce que tu nous parles cinéma dans un podcast sur la musique ? Parce que tout simplement, en 2013, l'un des groupes phares du post-metal a débarqué avec un chef-d'œuvre du nom de Vertical, basant son concept sur ce film. Alors je préfère vous prévenir tout de suite. Si vous n'êtes pas familier avec le groupe Cult of Luna, ou même le style en lui-même, ce disque n'est clairement pas la meilleure porte d'entrée, et je vous recommanderais plutôt de vous pencher sur d'autres de leurs albums comme A Down to Fear, ou encore The Long Road North, leur dernier album en date au moment de l'enregistrement. Enfin bref, tout ce que j'ai pu vous citer avant, que ce soit la SF, la froideur ou la noirceur, tout y est, et ce dès les premières minutes de The One, avec ses claviers spatiaux à la souhait, nous menant ensuite vers le riff soudain et brutal de Eye the Weapon et l'arrivée du chant hurlé si caractéristique de Johannes Persson. Tout est mécanique, organisé, millimétré, à l'image de cette pochette aux teintes de noir et de gris, semblant représenter des buildings et une ville que l'on pourrait voir dans le film justement. Et le morceau qui vient après, Vicarious Redemption, c'est une longue piste de près de 18 minutes 50. Alors, je vous avais prévenu, hein, la légèreté c'est pas pour maintenant. Ce titre, c'est selon moi la quintessence de leur carrière. On se sent comme happé par ce long build-up à base de sons en tout genre, de guitares noyées dans la réverb et les effets en tout genre, ou de légères percussions tribales. L'ambiance est inquiétante au possible, nous préparant pour le cataclysme à venir plus loin dans le thème, jusqu'à arriver à 11 minutes, où la voix est complètement déformée par les effets, et à 11 minutes 35, on a ce riff répétitif et entêtant à souhait qui m'obsède à chaque réécoute depuis que j'ai découvert l'album. Tout est tellement hypnotisant que je ne sens absolument pas la longueur de ce Vicarious Redemption passé. Il se finira dans un chaos ambiant pour nous amener à The Sweep, sorte d'interlude pouvant nous faire penser à la BO de Vangelis pour Blade Runner justement, et qui nous laisse nous reposer quelques instants avant la suite de l'album. Et en fait, tout s'enchaînera ensuite de la sorte sur tout l'album, jusqu'au final libérateur et semi-inquiétant Passing Through, où Johannes Persson nous offre son chant clair aux allures un peu ténébreux, vertical et dense. Et vous parler de chacun des titres un par un n'aurait pas de grand intérêt. Il est de ce genre d'album qu'il faut vivre, dans lequel il faut se laisser transporter dans son ambiance, qui peut ne pas paraître accueillant aux premiers abords. Il est pour moi la bande originale parfaite de la dystopie, cet avenir inquiétant qui nous tend les bras. Écouter Vertical, c'est fermer les yeux et se retrouver dans un univers sombre, mais ô combien fascinant, Time's Passing Me By.
Merci beaucoup Léo pour cet album, cet énorme pavé qui est le Vertical de Cult of Luna. Je me permets de faire une petite rectification. Le chant sur Passing Through n'est pas celui de Johannes Persson qui ne fait que du chant crié dans le groupe. Tous les morceaux chants clairs de Cult of Luna sont chantés par Frédéric Kilberg, le second guitariste.
Attends, j'ai oublié ça.
C'est pas grave, hein, c'est le petit erratum, c'est le petit point, petit point gic. Le Vertical qui est... D'ailleurs, je me souviens de me faire là la réflexion pendant que tu faisais ta chronique, que c'est rigolo que tu l'aies choisi aux côtés du Controlling Crowns, parce que lui aussi a un album additionnel pour augmenter sa tracklist. D'ailleurs, la première fois que j'ai vibré vraiment Cult of Luna, c'était sur un de ses morceaux, à savoir le morceau Light Chaser, qui a un côté ultra hypnotisant, tout en gardant ce côté justement très mécanique. Donc oui, album, comme tu disais, qui a été inspiré par le côté froid mécanique du film Metropolis, que je n'ai pas vu non plus, mais qui se ressent vraiment dans ce côté très... froid mécanique, je vais répéter les mots, mais c'est vraiment un travail esthétique, musical, et par rapport à la pochette, qui se ressent beaucoup, qui en fait par contre un album très compliqué à aborder. Ça fait partie des albums vraiment très durs de Cult of Luna à percer, déjà que je trouve que moi en tout cas personnellement c'est un groupe qui m'a demandé du temps avant d'en comprendre sa grammaire. Et je sais que dans l'équipe de Soundbather, il y a une personne qui, en tout cas le vocabulaire Cult of Lunien, il l'a toujours pas saisi, c'est Corentin. Donc par rapport à cet énorme monument que tu as dû affronter pour le bien de cet épisode, comment est-ce que tu en es ressorti, mon cher ami ?
Eh ben, comme tu l'as introduit, effectivement c'est une histoire longue et compliquée entre moi et Cult of Luna. Groupe que j'avais découvert en live lors d'un festival et que j'avais adoré de me faire rouler dessus par toute l'imposance de leur musique, et qui depuis je n'ai jamais réussi à rentrer dedans après sur disque malgré moult tentatives. Figurez-vous qu'il y a eu peut-être un plot twist récemment en réécoutant l'album. Je l'ai réécouté 3 ou 4 fois pour l'épisode, et même si j'ai toujours du mal avec la première piste et le chant beuglé de Johannes Persson, on passe sur la partie instrumentale, là ça me plaît vraiment beaucoup plus que ce que je peux trouver sur d'autres albums de Cult of Luna. Et t'as parlé de parpaing, c'est vraiment le mot en fait. Quand j'écoute cet album, j'ai l'impression de me retrouver en face d'un immense bloc de béton de 50 mètres de haut sur 20 mètres de large et 20 mètres en profondeur. C'est une esthétique que je retrouve dans l'architecture brutaliste. Alors je sais pas si ça parle à certains d'entre
vous. Putain, j'allais le dire.
Mais... Dommage.
C'est ce qu'on appelle un chai. C'est le chai.
Vous avez trop de culture pour moi. Wow.
Et du coup, oui, pour décrire un peu l'architecture brutaliste, ça va être des bâtiments très imposants qui vont avoir des formes très très géométriques, finalement assez simples, et très peu habillés d'ornements décoratifs ou autres.
Pensez URSS.
Oui. Et du coup, là où Controlling Crowns de Archive me donnait l'impression de ressentir la dystopie du point de vue des gens qui vivent à l'intérieur, là, Vertical de Cult of Luna, me donne un décor à cette dystopie, et je trouve que les albums fonctionnent très bien à écouter, même si le genre musical des deux sont complètement distincts.
Distincts, mais en même temps on retrouve cette similitude dans les d'approche de composition, je trouve, enfin tout ce qui est trip-hop, prog, post, enfin il y a ce côté morceau long qui se développe, qui est très tourné sur les ambiances.
Et oui, c'est vrai qu'il y a, je crois qu'il y a un titre vers la fin de l'album qui a un petit passage trip-hop d'ailleurs sur Vertical. Alors, j'ai plus son titre en tête.
Ça ne m'évoque rien là tout de suite, mais... Bah après c'était Passing Through justement, mais bref. Je te laisserai regarder ça après l'épisode. Passing Through d'ailleurs, qui a fait office d'une belle bulle d'air après tout le parpaing, et je suis très touché par ce morceau, que ce soit par son ambiance, par son texte aussi, qui est très sombre, mélancolique, mais en même temps assez résigné dans le bon sens du terme. Et je vous recommande la vidéo de Cult of Luna qui le joue sur un port enneigé en Suède en acoustique. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est tout... C'est tout... quel est le terme ? intimiste. C'est dans une intimité, vraiment, ça pourrait être des personnes dans, justement dans un univers comme dans 1984 qui se retrouvent et qui font juste un petit chant autour d'un feu dans un froid dystopique, et c'est vraiment un... C'est pas tant que ça, mais en tout cas, vraiment, c'est une très très belle. Même si jamais vous avez du mal avec le groupe dans leur formation électrique, cette performance acoustique est vraiment très touchante, je trouve, que ce soit dans l'approche visuelle qui est très importante au groupe, très propre au groupe, je trouve aussi, et également la proposition de réinterprétation acoustique. Mon cher Guillaume, bon bah Cult of Luna et toi, je sais que tu es à la maison, donc je te propose de renchaîner après cette très belle intervention des Cafis, encore merci à toi.
Ouais, alors tu sais, en vrai, tu as beau dire que Cult of Luna et moi on est à la maison, ça ne fait qu'au final que très peu de temps que je me suis vraiment intéressé à l'entièreté de l'œuvre de Cult of Luna. Jusqu'à plusieurs années, j'étais beaucoup plus sur les sorties récentes de Cult of Luna. Comme le disait Léo, celle que pour débuter la discographie de Cult of Luna en douceur, et encore quand je parle d'une douceur, c'est-à-dire que c'est une pente à 90 degrés et pas une falaise à la place. C'est plus des albums comme Down to Fear. Le Long Run North, ou surtout pour moi, qui est vraiment la meilleure porte d'entrée de Cult of Luna, même si c'est un peu l'album hors sujet, la discographie du groupe, c'est Mariner, avec justement qui est l'album hors sujet, parce qu'il n'y a pas que Cult of Luna qui a composé cet album, mais aussi Jolly Christmas. Mais c'est vrai que Vertical, bizarrement, je trouve que dans toutes les discographies de Cult of Luna, c'est peut-être celui qui est vraiment le plus imposant, ne serait-ce que quand tu le prends avec sa seconde partie aussi. Les deux ensemble font vraiment un effet, faut vraiment justement cette barre d'immeuble brutaliste, comme parlait Coco, qui est justement très très bien dépeinte. C'est vraiment un béton froid, est vraiment très imposant, très difficile d'accès, ne serait-ce que, comme tu le disais Léo, la piste Vicarious Redemption, qui est officiellement la plus longue piste de Cult of Luna, mais qui est justement d'une beauté fatale. Et je me permets aussi, à propos de la musique de Cult of Luna, de vous rediriger à l'escale sur la tempête, où j'avais donné la définition du sublime pour l'album d'Inter Arma, et que je prouve qu'il se porte vachement bien sur la musique de Cult of Luna. Donc à savoir, grosso merdo, j'ai plus la définition exacte en tête, mais c'est le sublime, c'est quelque chose qui fait peur mais qui impose notre respect, quelque chose comme ça,
qui transcende la notion de beau, en fait.
Oui, voilà, c'est ça. Et je trouve que la musique de Cult of Luna, surtout sur ce vertical, se porte vachement bien. Et moi, mon coup de cœur sur cet album, ça reste surtout la piste avant Passing Through, ça reste In Awe Of, qui je trouve vraiment, ne serait-ce que par ses ambiances, ses rythmes et ses riffs surtout, est vraiment pour moi ce que fait le meilleur avec Cult of Luna. Même si en vrai la recette de Cult of Luna est assez connue maintenant, c'est du post-metal, c'est-à-dire qu'il y a une grosse construction, il y a un tempo qui commence, une grande construction pour ensuite exploser avec soit la voix criante de Johannes, ou soit la voix plus posée de Frédéric, même si la voix de Frédéric sert plutôt pour les interludes ou ce genre de choses. Mais la recette de Cult of Luna est certes connue, mais diablement efficace. Et sur cet album, c'est vraiment celle qui est le mieux représentée. Et c'est vrai que Vertical fait partie de ces albums qui ont vraiment propulsé Cult of Luna comme maître du post-metal. Bon, si, parce que Isis avait 10 bandes depuis un moment, donc ils ont pris la place, ils ont pris le trône qui était vacant. Mais je pense que c'est aussi grâce à plutôt grâce à Vertical, et c'est amplement mérité, parce que quand tu sors un album comme ça, oui, c'est sûr que quand tu veux faire des cours de post-metal, c'est une vraie pièce angulaire, et encore plus avec la dystopie qui, au final, le post-metal est un genre qui colle aussi vachement bien à la dystopie, comme je le disais dans la chronique sur le trip-hop.
Ouais, ça, il y a d'autres albums qui auraient pu être cités là-dessus, ça c'est clair. D'ailleurs, In Awe Of, je me demande si c'est pas celui-là avec un beat trip-hop à un moment, maintenant que tu évoquais le titre.
Ouais,
c'est possible, parce que c'est
une des pistes que j'ai préférées d'album.
Ouais, et ouais, c'est souvent de l'album, il fait office de gros moments forts, même chez les fans, dans les sets, etc. Et histoire de mettre un petit peu les auditeurs et auditrices un peu dans la sauce, moi je trouve personnellement que l'album le plus facile d'accès de Cult of Luna, c'est Somewhere Along the Highway. Voilà, donc démerdez-vous, bon courage, vous avez 4 albums différents. So long,
Mais c'est bien pour ça qu'en vrai, je dis aussi que Vertical, bizarrement, tu penses que souvent on a cette tendance à dire que les groupes sortent des albums de plus en plus faciles d'accès. Alors pour Cult of Luna, ça reste un peu vrai, parce que c'est vrai que The Long Run North et Down to Fear sont quand même plus faciles d'accès que par exemple Vertical, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Somewhere Along the Highway est quand même beaucoup plus accessible que Vertical, qui est sorti pourtant 6 ans après, toi. Donc
je t'avoue, ouais, j'ai beaucoup clair. De mal avec Down to Fear, hein.
8 ans après.
Il reste une personne qui n'a pas parlé de Cult of Luna et c'est Cédric alias Play to Die. Et c'est vrai que j'ai assez peu parlé de Cult of Luna avec toi. Je sais qu'on avait partagé un set de Cult of Luna ensemble, si je dis pas de bêtises.
Oui. Hein.
Donc, bah, qu'en est-il de toi?
Alors, c'est comment t'as dit, Léo? C'est pas la bonne porte d'entrée? C'est ça l'album?
Ouais.
Parce que du coup, ça a été ma porte d'entrée.
Oh là là. C'est terrible, ouais, en le mettant ici. Hein.
Mais tu parles un peu sur la musique là aussi.
Et j'adore. Parce que, mais par contre, le truc que j'ai pas entendu et que moi, le truc, c'est la première chose qui m'a pris quand j'ai lancé l'album, c'est l'intro, on dirait du Perturbator. Hein.
Le Dark Synth, ouais.
On dirait vachement de la Dark Synth hein, quand même.
Tu sais qu'en plus, Cult of Luna et Perturbator, c'est une longue histoire d'amour. Hein.
Ne serait-ce que
parler que l'an dernier, Johannes Persson a sorti un projet qui s'appelle Final Light avec justement James Ken, donc Perturbator. Et aussi, Perturbator a remixé un morceau de Mariner, à savoir Sinus, qui est incroyable. Écoutez le remix de Sinus de Perturbator, c'est incroyable. Et oui, c'est pas étonnant que ça te fait penser à du Perturbator.
Bah oui, surtout que ça c'est sorti un an avant l'album de Perturbator, Dangerous Days, l'album qu'il a, si j'ai bien suivi, bien lancé. Enfin bon, du coup, je connaissais pas Cult of Luna. Enfin, en vrai, je connaissais un petit peu parce que je les avais vus quand j'étais ado. Que c'était un des seuls concerts qui passait là où j'habitais, un des seuls concerts de métal qui passait où j'habitais. J'y avais été, je connaissais pas. Quand tu connais pas le post-metal, ils venaient juste de sortir Finland, je crois, au moment quand je les ai vus.
Bon. Ah ouais.
Je les ai découverts à ce moment-là. Bon, bah, j'ai pas trop apprécié. Là, du coup, je suis revenu dessus et j'ai beaucoup plus apprécié. J'ai adoré cet album, surtout. Bah, alors, Rowan, déjà, ça te lance dans l'ambiance. Et puis après, quand t'as Weapon qui t'arrive dessus, bah, j'ai fait, bah oui, j'achète. Je prendrai tout votre stock. Hein.
Après, The Weapon en live qui est une flinguerie à chaque fois. Hein, c'est...
Voilà. Donc Vicarious Redemption, un long et lent build-up. On se demande vraiment dans quel genre on se trouve. Tiens donc. Hein. Non, en vrai, cette piste est pareil. J'ai adoré cette piste parce que ben là, t'as vraiment, elle pose vraiment bien l'ambiance. Ça prend tout son temps pour te foutre dedans. Après, comme tu l'as dit, c'est un album très dense. Donc vers la fin, j'apprécie toujours, mais j'ai vu que ça fait à la fin, t'as quasiment une heure de Cult of Luna. Ça commence à te peser dessus. J'apprécie toujours autant, mais je retiens beaucoup moins ce qui se passe. Donc faudra que je réécoute, mais clairement un très bon album. L'ambiance dystopique, évidemment, vu comment c'est oppressif et froid, bon bah, évidemment que ça te fait penser à ça. Du coup, j'ai un peu recherché sur YouTube, j'ai vu des collages qu'ils ont fait entre Vertical et Metropolis, et oui, ça marche plutôt bien avec les décors assez imposants du film. Et pour finir. C'est Synchronicity. À la fin, ça se finit par un petit riff de guitare. Enfin, c'est pas un riff, mais c'est juste, il joue une note répétitive. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à une version maudite de 500 Miles des Pretenders. Je sais pas. Ou des Proclaimers, je sais plus lequel. Je suis désolé. Mais pour finir, il y a. Alors, je spoil un petit peu, mais voilà. Il y a un genre dont on va pas parler aujourd'hui et pourtant qui s'y porte super bien. Du coup, c'est la Dark Synth qui se porte quand même vachement bien avec la dystopie. C'est presque intégré dans le genre. Donc, si jamais la dystopie vous intéresse, je vous invite par exemple à aller voir du Perturbator, du Carpenter Brut et autres groupes de Dark Synth.
Oui, c'est vrai, un genre qui est très marqué. Très très marqué, encore plus Perturbator que Carpenter Brut, je trouve.
Perturbator, c'est vraiment, oui, c'est plus oppressif. Carpenter Brut, c'est plus la violence.
Et Carpenter Brut utilise beaucoup plus l'image des années 80 qui est vraiment propre à ce courant de la synthwave, dont la dark synth dérive. Alors que Perturbator est vraiment plus porté sur un espèce de futur sombre et bionique et mécanique.
Voilà. Et voilà. Merci pour vos précisions et cette recommandation bonus. Ne digressons pas plus que cela. Et merci pour ces échanges sur ce pavé qui est vertical de
Cult of Luna.
Et je vous propose d'aller vers la dernière chronique de notre échange sur la dystopie. Voilà, comme ça c'est fait. Je me suis retenu pendant tout l'épisode. Elle a été faite. Yes. Corentin, je te passe le micro. C'est ton tour. Quel album as-tu choisi ?
Tu vas voir. Je vais faire une petite intro avant de révéler le titre de mon album à la face du monde. Un bourdonnement désagréable. Une goutte de sueur qui vous chatouille le long du mollet, et soudain, un rayon perçant vient traverser vos paupières pour achever de perturber votre sieste post-déjeuner. Le soleil a tourné et passe maintenant sa tête sur le côté d'un parasol troué, difficile de tenir sous le terrible cagnard qui règne désormais sur Terre à cause du réchauffement climatique. Vous remontez en selle de votre vélo tuk-tuk aménagé, et vous remettez en quête d'une oasis pour refaire vos réserves d'eau qui s'amenuisent dangereusement. Dans ce monde où l'accaparement de ressources a complètement détruit l'intérêt d'un quelconque système économique, il est devenu illusoire d'espérer faire fonctionner un quelconque appareil un tant soit peu technologique, et tout tourne autour de matériaux de récupération. C'est dans ce type d'univers que j'aime laisser vagabonder mon imaginaire lorsque j'écoute les premiers albums de Gorillaz, et plus particulièrement leur second, Demon Days. Ce décor, proche de franchises comme Mad Max ou Fallout, est pourtant assez loin du monde à la fois musical et visuel créé par le duo de Damon Albarn et Jamie Hewlett. Car s'il ne transparaît pas dans les clips, à part peut-être celui de Dirty Harry, cet univers désolé transpire par tous les ports de l'album du groupe visuel. Et pourtant, malgré des thèmes abordés assez durs comme les enfants soldats, la chute de la civilisation, ou l'exploitation de ressources au détriment des populations autochtones sur Fire Coming Out of the Monkey's Head, le disque conserve quasiment tout du long une vibe très funky, assez feel-good, comme le rappelle le titre de sa chanson phare. Cette vibe est due à une profusion de samples et de sonorités électroniques, certes désuètes aujourd'hui, mais qui confère à l'album un côté System D qui sied à merveille à son ambiance. C'est un véritable bonheur de voyager dans ce monde constitué de bric-à-brac où le rafistolage devient la norme. Il y a un côté très enfantin et régressif à s'imaginer un univers où les objets sont détournés de leur usage. Un poste radio évidé va devenir une caisse à outils, la cale d'un bateau échoué se transforme en abri de fortune, et un train déraillé va fournir le logement pour toute une communauté. Un peu comme si la planète entière était devenue un immense radeau de la Méduse. Cette légèreté vagabonde va surtout se retrouver dans des titres comme O Green World ou Dirty Harry. À côté, on va aussi retrouver pas manqué de titres qui vont prendre leur envol sur une seconde moitié qui fleure bon la jam fructueuse. Kids with Guns qui fait la part belle aux percussions sur son final épique, mais surtout Every Planet We Reach Is Dead qui met le piano et les violons à l'honneur. Néanmoins, au centre du disque et de cette ambiance aigre-douce se cache un titre bien plus morose, aux teintes bien ternes par rapport aux autres morceaux. Ce titre, c'est El Mañana, et c'est un dur retour à la réalité de ce monde post-apocalyptique. La voix d'Albarn, de 2D, s'y fait plus désespérée que jamais, la mélodie électronique entraîne perpétuellement votre morale vers le bas, et les violons mélancoliques achèveront de clouer votre humeur dans les profondeurs en fin de piste. El Mañana, c'est un peu le matin déplorable qui suit une soirée à se morfondre où la nuit n'a porté aucun de ses conseils. Le monde est toujours aussi pourri que la veille et vos tourments continuent de vous dévorer. Heureusement, malgré l'environnement qui part en cendres et les mauvaises nouvelles qui s'accumulent, on peut toujours compter sur All Alone et Der pour continuer de faire la fête sur la tombe des vieux démons.
Ah, bien joué! Oh là, il fait des jeux de mots en plus, oh là là, c'est formidable. Une chronique comme on les aime, pour un album qui fait office de foi un petit peu sur mon musical. Enfin, Gorillaz, de toute façon, c'est un des super noms des années 90-2000 qui, enfin, je pense que vous avez tous entendu en soirée ou quelque part certains de leurs morceaux et de cet univers qui, c'est vrai, c'est drôle en fait que tu l'aies souligné. C'est en fait, j'avais beau adorer regarder moi les clips, l'univers, etc., j'avais jamais fait un rapprochement avec un univers post-apo ou dystopique, alors qu'en fait, c'est partout. Quoi. Et c'est peut-être alors soit j'ai pas été assez vigilant ou alors juste qu'ils ont vraiment très très bien fait leur travail de monde imaginaire mais qui en fait ne l'est pas tant que ça. Donc peut-être que je regarde des clips, ce sera rigolo de voir tous ces détails là. Donc merci pour cette prise de conscience de mon côté. Je pense pas avoir à ajouter des choses sur les morceaux. Sans être un fan absolu de Gorillaz, j'ai effectivement une affection pour cet album et sur beaucoup de ses gros tubes. El Mañana est effectivement en plus un des morceaux préférés tout court du groupe. Donc très content qu'il ait été mis à l'honneur dans ta chronique. Et je fais la passe à mon confrère tripopien, à savoir Guillaume, pour nous faire son petit commentaire sur ce disque.
c'est un album que j'adore, c'est aussi un de mes albums de ma vie, simplement parce que quand j'écoutais vraiment que du métal, je faisais partie de cette catégorie de personnes qui disaient « Non, mais tu sais, j'écoute pas que du métal, hein, ah, j'aime bien Gorillaz aussi, hein !» Vous savez, on a tous été comme ça, hein, à se dire « Ouais, non, je suis éclectique hein, dans mes goûts musicaux, regardez, j'écoute du rap, j'écoute Gorillaz !» C'est non, faux, mais évidemment.
« J'écoute Poneleux, c'est bon ouais. !»
Non, mais c'était quand même quelque chose de vrai dans les années 2010. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un album qui représente, bah, comme le titre Feel Good Inc, c'est, je pense, le titre qui représente le mieux l'ambiance dépeinte par Demon Days, parce que c'est vrai que Gorillaz, c'est un groupe, déjà qu'on rappelle que c'est un groupe avec des membres imaginaires, hein. On sait tous que les deux monsieur qui sont derrière la tête pensante, mais c'est quand même un quatuor qui a été dessiné à la base, dont en comptant en représentation des hologrammes des personnages animés derrière, avec Toody, Noodles, Murdoch et Russell, voilà, j'avais oublié les noms des quatre lions. Mais c'est surtout qu'en vrai, ça brille vraiment par leur clip, et c'est pour ça que je peux vraiment te conseiller de regarder leur clip, surtout le clip de Feel Good Inc, et que je trouve représente expressément bien la petite fiction que tu nous as fait, Coco, au début de la chronique, parce que justement le clip de Feel Good Inc où il y a Noodle qui joue de la guitare sur une espèce d'île flottante propulsée par un moulin, où tu vois une espèce de tour de multinationale où sont enfermés des gens à l'intérieur, c'est vraiment ce qui représente, je pense, le mieux le mood général de l'album, une espèce de post-apocalyptique où tu essayes de vivre avec un petit peu de naïveté, d'essayer de trouver un peu de réconfort avec la musique quand tu sais que en bas, parce que justement le clip de Feel Good Inc, tout comme après Feel Good Inc se trouvait le Manana, le clip se finit sur la redescente en dessous des nuages pour voir la cité un peu dystopique dans laquelle se déroule le Manana, où le monde est pourri, mais ça t'empêche pas quand même d'essayer quand même de toujours profiter un peu, parce que c'est quand même des titres ultra dansants, notamment Dare, et c'est vrai qu'au final j'ai toujours trouvé ça assez marrant avec Demon Days, c'est que c'est un album qui est quand même essentiel pour beaucoup de mélomanes. Et surtout que nous qui sommes français, vous voyez, on a, même si je pense que autour dans Son Baveur en général, on n'a pas beaucoup de mal avec l'anglais et qu'on comprend les paroles, mais je sais que quand il est sorti, je pichais pas un mot d'anglais, je chantais les paroles en yaourt, et j'ai toujours trouvé ça marrant de danser au rythme de mélodies justement très dansantes, très enivrantes, et quand t'entends les paroles, c'est quand même ultra triste, hein. Je faisais partie de cette catégorie de personnes qui adoraient bouger son booty sur Kids with Guns, et quand t'écoutes les paroles, tu fais ah oui d'accord, je vais me suicider, ça me montre le moral, hein, évidemment.
Tu sais, c'est comme quand tu chies sur On Melancholy Hill sur Plastic Beach, hein, tu sais, la mélodie elle est toute joyeuse, tu regardes les paroles, tu fais ah merde.
on avait dit dans une escale, je ne sais plus c'était laquelle, peut-être que si mes chers auditeurs et auditrices vous la retrouvez, qu'on disait qu'il y a des morceaux comme ça qui ont un tempo ultra joyeux alors que les paroles sont super sombres, et tout l'album Demon Days est un peu là. C'est assez incroyable de voir comment tu peux t'enjailler sans non plus vouloir te mettre une balle avec les paroles qui sont quand même super sombres.
Et t'as parlé du morceau d'air en morceau très dansant. Si vous voulez une véritable vision de la dystopie, je vous invite à aller voir des images en live de la chanson d'air. Parce qu'à chaque fois, il y a Sean Ryder qui est là pour chanter, sauf qu'il est toujours ivre mort sur scène. Et ça donne des scènes très marrantes à regarder.
Et j'ai retrouvé dans quelle escale on parlait de ça, c'était dans l'escale sur la dépression, on parlait de tout l'album After Laughter de Paramore, où c'est super dansant et les paroles sont super tristes, et c'est Cédric qui disait que ça rejoint un peu Pump Take Kids de Foster the People, qui est dans la même veine, et bah Demon Days de Gorillaz, c'est pareil.
Merci pour cette belle intervention, Guillaume. Vu que tu évoquais Cédric, justement, je vais laisser la main, d'autant plus que c'est quelqu'un qui, il l'a dit plus tard, enfin précédemment, n'est pas si fan de trip-hop que ça. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de cette écoute de ce grand monument du trip-hop ?
Que je ne suis pas si fan que ça du trip-hop.
ouais, je me doute, mais...
Voilà. Bon, en vrai, hein, il y a de très bons morceaux là-dessus. Je vais pas... notamment Dare, oui. Je pense que c'est mon morceau préféré de Gorillaz, en vrai, Dare, celui-là. Après, bon, Feel Good Inc, pareil, très excellent morceau. Je pense que j'ai même pas besoin d'en parler. Après, je me suis posé une question. Est-ce que, en vrai, Demon Days, c'est pas le meilleur album de Gorillaz? Ou c'est pas considéré comme tel?
Ça l'est.
Ouais, voilà.
Pour beaucoup, c'est considéré comme tel, ouais. Hein.
Je pense que t'as une petite bataille avec l'éponyme aussi, mais je pense que dans la culture populaire, c'est Demon Days le meilleur.
Dans, ouais, c'est celui qui a le plus de succès. Puis il y a certains irréductibles qui citent Plastic Beach un petit peu aussi, mais effectivement, t'es sûr.
Mais ils sont
Demon Days. Personne ne c'est étonnant.
C'est celui qui met tout le monde d'accord, en tout cas, Demon Days. Ouais,
ouais voilà. Donc du coup, comme Guillaume l'a dit, bon, bah, c'est funky, c'est catchy, donc oui, la danse, hein, évidemment. Après, t'as tout le côté dépressif, le côté triste, enfin, la voix d'Albarn, je suis désolé. Enfin, notamment, alors, sur Phil Gooding, là, quand il est avec son faux microphone, voilà. Sur Almaniana aussi, ça inspire pas la joie, évidemment. Et en vrai, moi, c'est ce que j'ai un peu retenu d'Albarn, c'est qu'il y a beaucoup de morceaux que je trouve mornes. Donc ça m'engage pas forcément à revenir dessus. Mais enfin, après, donc, un truc aussi connu sur Gorillaz, c'est que c'est hyper hétérogène. J'avais jamais écouté d'album entier du groupe. Je m'en suis vraiment rendu compte là, lors de l'écoute de Demon Days. Mais malheureusement, je vois le travail, parce qu'il y a un travail derrière qui est immense, hein. ça s'entend, mais malheureusement, je suis pas le public, comme ça qu'on dit. Voilà, c'est comme Tears for Fears, quoi. Je sais que c'est très bien, mais je peux pas.
Mais que me vaut cette attaque gratuite, enfin.
justement, c'était une attaque gratuite, bravo.
Waouh. Wow, j'étais tranquille en train d'accepter ton avis, et puis là, d'un seul coup, là, je suis pris à la gorge, mais c'est quel est ce...
Tu remarqueras que j'ai jamais dit que c'était nul, hein, Tears for Fears.
Oui,
je sais que c'est bien, mais c'est juste que... je sais pas, mais ça marche pas sur moi.
Et nous, tu vois, mon cher Cédric, comparé à une dystopie où on te dirait « ferme ta gueule et aime », nous, on va être plus démocratique et on va dire « tu as le droit d'avoir tort ».
Voilà. Bien joué.
Bien joué.
Et pour rebondir à ce que tu dis sur la voix d'Amon Albarn, il a un petit peu de ça, hein, je vous renvoie. Enfin, il a ce côté parfois un petit peu...
traînant, qui fait sa caractéristique. Dépressif, quoi, putain.
Je vous renvoie à la chronique qu'avait fait Barney sur l'escale, sur le spleen et la mélancolie, sur un album de Blur où justement c'était Blur qui touchait un petit peu le fond dans leur histoire et
merde t'as devancé ma
vanne. Non c'était Blur
Wizard c'était sur une autre escale.
Encore c'était sur une autre escale. Là je vous parle, on parle d'Amon Albarn, laissons les Wizards là où ils sont, mais voilà, je vous renvoie également si vous voulez avoir d'Amon Albarn dans ses justement dans ses jours un petit peu démons vers cette chronique de Barney qui expliquait cet album de très belle façon d'ailleurs, comme à son habitude. Merci Cédric. Il reste une personne qui n'a pas encore parlé de Demon Days et c'est Léo, donc je t'en prie, la piste est à toi.
Bah écoutez, la chose surprenante c'est que j'avais beau bien connaître l'album et thématique, je me demandais quel serait l'axe un peu de la chronique de Coco, mais du coup j'ai pas été déçu, je trouve que c'est une très belle chronique et ça m'a fait replonger un peu dans cet album que Gorillaz, que j'ai beaucoup écouté, je me rappelle l'été où je passais mon permis il y a 5 ans. Et j'écoutais que ça. Et en fait, du coup, je m'en étais écœuré. Et j'arrivais plus à en réécouter avant ces derniers mois où je m'y suis remis. Et j'ai recommencé à apprécier parce que je pouvais plus. C'est quand même un gros album, Demon Days. Hein. Que ce soit l'album en lui-même ou l'héritage qu'il a laissé, c'est quand même un disque important, fort et, comme vous l'avez dit, hétérogène. Et justement, ce décalage entre les paroles et la musique, vous en avez déjà parlé beaucoup, mais c'est quelque chose qui me touche beaucoup dans ce groupe. Et justement avec une Maniana qui est pour moi leur meilleur titre. Et il y a plein de petites pépites dans cet album et j'ai découvert quelque chose il n'y a pas longtemps. C'est que je suis récemment tombé amoureux de la musique de MF Doom et j'ai appris qu'il était sur le morceau November Has Come. Et quand j'ai réécouté j'ai fait oui. Juste oui. Non, November Has Come, c'est une des pépites qui est pas trop cité dans cet album, mais... Moi, j'ai pas grand chose à rajouter à part dire écoutez-le. Si, je pense que beaucoup de gens l'ont fait, mais si vous ne l'avez pas encore fait, écoutez-le parce que c'est quand même un super disque qui mélange.
Bah, écoutez-le au-delà des singles que vous êtes très certainement entendu quelque part, notamment dans une soirée. Enfin,
c'est ça.
Oui, hein.
Parce qu'il faut c'est pas ça, se leurrer. Je pense que personne n'a jamais entendu la ligne de base de Feel Good Inc. Je pense.
Oh, c'est pas la première que j'ai appris, c'est faux.
C'est une très bonne ligne à apprendre. Mais... Eh bien, merci pour ton intervention, Léo. Mais est-ce que l'un de vous, messieurs, a envie de rajouter quelque chose sur ce Demon Days ? Non, et bah on va du coup clore cette fenêtre dystopique de l'escale. Je vous remercie pour ces très chouettes échanges, ces très chouettes chroniques. Ça a été un plaisir de parler de ces albums et d'avoir ces échanges très constructifs et riches. Encore une fois, toujours un plaisir d'animer ce podcast. Merci, j'espère que cet avis est partagé en tout cas par vous, chères auditrices et auditeurs. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver encore une fois sur toutes les plateformes de streaming. Sur soundbaver.fr, vous pouvez non seulement retrouver tous les épisodes, mais également tous les écrits de l'équipe, tous les autres podcasts, toutes les autres réalisations, également par le Soundbaver Cinematic Universe. Je pense bien évidemment à nos amis et membres de Soundbaver qui font la scène. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, c'est avec Soundbaver, et comme ça vous retrouvez absolument tout notre travail. Merci de votre écoute, merci à vous messieurs pour votre chronique, merci à toi Corentin.
Un plaisir.
Merci à toi Léo.
Ben, merci à tous, un super moment comme d'habitude. Et j'espère que les auditeurs vous avez apprécié nos échanges.
Ouais, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, mais également sur nos réseaux sociaux, que ce soit du positif, du négatif, des découvertes, des conseils. On serait toujours ravis d'échanger avec vous, peu importe sur quel axe autour de l'épisode. Merci à toi Cédric.
Stoppy.
Ah non, je l'ai pas dit. Enfin, je te l'ai pas lancé. Mais ouais, bref, mais si, je l'ai dit tout à l'heure, voilà. T'as compris.
Oh, mais ça a été un grand plaisir d'être ici, évidemment. Après, je peux pas dire pareil des albums que j'ai écoutés, mais bon.
C'est bien. C'est important parfois de manger un peu varié.
C'était quand même.
Je suis sûr que les auditeurs et les auditrices trouveront quelque chose à apprécier dans ce qu'on a partagé ici.
Ouais, une belle sélection, complètement. Et merci à toi, mon cher. Oui, c'est vrai. Et merci à toi, mon cher Dre.
Si jamais on arrive dans une dystopie, j'espère que le dictateur en place voudra mettre en place deux choses, à savoir cramer les personnes qui disent qui ça dans le refrain des démons de minuit, et aussi, ceux qui répètent la phrase quand il y a le mot dit d'après quelque chose, comme typiquement le dystopie. D'ici là,
ceux qui disent pas qu'on va dans une dystopie. Bon, ça, c'est une autre histoire.
Oui, bon voilà. Donc,
On va terminer
là-dessus.
Moi, je voulais justement offline, on va se battre.
Je voulais justement lancer une note plus positive en mode d'ici là. Eh bien, pour éviter que si jamais vous le faites, vous ne fassiez cramer. Continuons de nous battre contre les pouvoirs en place. Il faut tout cramer, comme on le disait au début de l'épisode.
Pour les droits et pour un avenir un peu plus radieux qui tend plus vers l'utopie, c'est sûr, ce serait toujours mieux. Merci à tous et toutes pour votre écoute. Encore merci messieurs pour votre participation sur cet épisode. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et à très bientôt sur soundbaver.fr. Des bisous.
Des bisous à tous.
Bisous.
Allez, c'est bon. On nous fera un épisode concis comme ça.
Voilà.
On clap. Et même si nous sommes pas si, on sera très cons. Alors, 3, 2, 1.